Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
J'ai Alain Pronkine avec nous. Monsieur Pronkine, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour Alain. Alors, ça commence aujourd'hui, là. Envoie-moi avec tes sujets parce que je les ai pas.
T'es pas.
Ah bon, ben, je les ai là. Ouais. Je viens de les avoir.
T'es là, OK.
Bon. Alors, les attaques se poursuivent. Israël, Palestine. Hey, c'est pas fini, ça. Il va falloir que ça se règle, là, parce que c'est une tuerie.
Oui, même si le pape a demandé d'intervenir dans ce dossier-là, il a dit, écoutez, il faut arrêter, cesser les combats. On sait que le pape est déjà allé prier là-bas, mais le pape fait cette demande-là. Mais le pape, on va revenir avec un des premiers sujets, il a rencontré comment il s'appelle, John Kerry.
Oui.
John Kerry, qui avait déjà rencontré, parce que John Kerry veut l'inviter pour le prochain COP, le COP 26 à Glasgow. C'est quoi le COP? C'est une organisation des Nations Unies qui a notamment donné lieu à l'accord de Paris en 2015. C'est pour les réductions de pollution. Bon, alors, il veut l'inviter. Il a dit, vous êtes une voix cruciale. Et il l'a rencontré à cet effet-là. Il dit, j'espère que le pape va venir faire un tour à Glasgow. Ça, j'ai des réserves avec ça, parce que je pense qu'il vise plutôt des lieux où ça va très mal, où il y a de la guerre. C'est plus dans les habitudes du pape. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est un changement au niveau des États-Unis, parce que John Kerry est pour la lutte au réchauffement climatique. Et M. Trump, qui était son prédécesseur, lui, était contre et était sorti de l'accord de Paris.
Ouais, mais c'est quoi le lien, Alain, entre la COP qu'on a signée en 2015, là, où Justin Trudeau est allé le signer, puis après, il est revenu ici, puis a acheté une pipeline dans l'Ouest, et les attaques en Israël, puis en Palestine?
Ce que je veux dire, c'est que c'est les rencontres officielles de John Kerry était avec le pape. Ils n'ont pas discuté de ce problème-là. C'est ça qui m'étonne. Mmh. Pourquoi Kerry n'a pas parlé avec le pape de ce qui se passait avec
Mais ça regarde pas le pape, ça?
Ben, le pape est allé en Palestine, faut pas oublier ça. Il a rencontré les leaders religieux. Il les a invités à aller prier avec lui. À l'époque, je me souviens, il y avait Shimon Peres qui était toujours vivant. Et il y avait, je pense, le leader du Hamas qui était aussi le rencontrer. Donc, il a fait des prières avec tous ces gens-là.
Ah, mais
la paix depuis des années. Mais ça fonctionne pas.
Mais c'est-tu vraiment religieux ou c'est politique, là? Est-ce que c'est le Hamas qui est lié aux frères musulmans, puis c'est Israël qui veut contrôler la région? Ça dépasse sa religion, là.
C'est toujours entre les deux. Parce que le pape, on le sait depuis des décennies, c'est un ambassadeur de paix. Il va aller à l'ONU. Quoi qu'à l'ONU, ils disent toujours, on n'a pas le droit de vote, mais on est un observateur. Il fait des interventions. Il est invité à aller parler à l'ONU. Il y a un réseau de diplomates partout sur la planète. Écoute, ils viennent nommer, ça y a pris 2 ans, un évêque à Hong Kong. Mais là, on vous prend-tu un évêque qui est pour la liberté, qui est contre la liberté, qui est pro-Chine? Donc, il est toujours pris dans des discussions politiques et des discussions religieuses, parce qu'il faut toujours qu'il teinte ça d'une façon religieuse. Et là, dans ce cas-là, ben, on est toujours à la limite des deux. Mais moi, je m'attendais, quand j'ai rencontré Kerry, qu'il parle surtout de ça, ce qui n'a pas été le cas, semble-t-il.
Bon.
Il a plus parlé du réchauffement climatique. C'est important, mais ça tue, comme on dit, mais ça tue pas des enfants en direct comme il se passe en ce moment.
Oui. Et la Cour suprême américaine, Alex?
Oui, la Cour suprême, c'est juste, Benoît, c'est je ne sais pas s'ils t'ont donné le bon plan de match pour la journée d'aujourd'hui.
OK, vas-y avec tes
sujets. Je vais y aller. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu viens de parler des femmes, il vient d'avoir un féminicide, mais le lien est peut-être un peu loin, mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'agents de pastoral qui ont perdu leur emploi. Il y avait 500 agents de pastoral qui sont des femmes à 75%, même dans certains diocèses à 83%, il en reste 400. Il y a 100 agents de pastoral qui ont perdu leur job au Québec. Pourquoi? Ben, on met le dos évidemment sur la pandémie, on met le dos sur le vieillissement, on met le dos sur il n'y a pas de relève. Ce qui est important, c'est que les femmes dans l'Église, c'est fondamental. C'est elles qui font l'éducation des jeunes à la religion, c'est elles qui s'occupent des gens, l'aide aux démunis. Elles sont le pilier central de nos paroisses. Et là, on part de 500, on tombe à 400 et on s'en va à quel endroit? Et pourquoi je te parle des femmes, Benoît? C'est parce que en Allemagne, Il y a actuellement des femmes qui demandent des droits, on revendique des droits. On a des prêtres qui ont décidé de bénir des couples de même sexe. Comment ça qu'ils ont béni des couples de même sexe? C'est que on sait que le Vatican a dit vous pouvez plus bénir des couples de même sexe. Ça veut dire que deux hommes ou deux femmes qui s'aiment n'avaient pas le droit de bénir ces unions-là. On parle même pas de mariage, là.
Mais là,
on
comment ça marche, là? C'est des prêtres qui s'opposent au Vatican?
Ben, c'est ça la grande question. D'où ça vient cette insatisfaction-là? Parce qu'on sait que les Allemands ou les prêtres allemands sont ils sont actuellement en train de faire un synode et ils sont insatisfaits du Vatican. Et là, ce qu'ils font, ils font un synode, écoute, qui est sur la sexualité et la place des femmes. Et sur la sexualité, ils disent, il faut que l'Église se mette à date, les couples de même sexe, ça existe, et il faut les bénir. Peut-être, on n'est pas rendu au stade du mariage, mais au moins les bénir dans leur union. Parce que beaucoup de, il y a même des évêques et des cardinaux qui ont dit, il y a des couples de même sexe qui durent 25 ans, 30 ans, 35 ans,
wow.
Et qui respectent c'est plus long que des couples hétérosexuels et qui respectent les enseignements de l'Église.
Ouais,
on peut-tu les bénir? Et ça va encore plus loin que ça, parce qu'imagine les femmes en Allemagne, les femmes n'ont pas le droit, évidemment, d'être prêtres, et ils n'ont pas le droit de faire des homilies. Ça veut dire qu'on va les utiliser comme agents de pastoral pour la communion, pour enseigner jeunes, mais ils n'ont pas le droit de faire d'homilies. L'homilie, c'est le discours des prêtres après, quand on fait les évangiles, on lit l'évangile. Alors là, il y a 12 femmes qui ont dit, on va défier la règle du Vatican et on va aller faire des homélies sur les sujets souvent qui sont d'actualité.
Alors, les homélies, c'est des sermons, là. C'est
des sermons.
Ah oui.
Mais avec des femmes, j'ai l'impression que ça endort moins.
OK, c'est ça, le 12 femmes, 12 yeux, 12 prêches?
Voilà. Okay. Et ils ont fait ça en dénonçant les règles du Vatican, parce que pour le Vatican, une femme ne peut pas faire de sermon, ne peut pas aller faire une homélie. C'est juste les hommes.
Pourquoi
ils
donc?
Ils ont défié. C'est les vieilles règles, parce qu'on dit toujours, ah ben les 12 apôtres étaient des hommes. Comme c'était des hommes, ce n'est que les hommes qui peuvent faire la messe. Et ce qui est le plus important dans la messe, évidemment, c'est la communion, c'est lire l'évangile et c'est faire le sermon.
Il n'y avait pas Marie-Madeleine dans les 12 apôtres?
Elle n'était pas apôtre, Marie-Madeleine. Mais eux, ils disent qu'il y a eu une erreur de traduction dans les premiers apôtres et qu'il y en a un, dans le fond, qui en était une.
Ben, c'est ça?
Oui, mais c'est pas Marie-Madeleine, c'est une autre.
C'est une autre.
C'est Junie de mémoire.
Ah oui.
Ça ressemble à juin, mais c'était elle. Alors, eux, ils disent, on a le droit de faire des homélies. Et là, il y a vraiment, parce qu'il y a vraiment une lutte actuellement entre l'Église allemande et le Vatican. Et on sait que, issu de l'Église allemande, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI. Et lui, ben, il a la frange conservatrice et t'as la frange libérale. Mais on sent que ça bouge beaucoup en Allemagne. Est-ce que ça va donner lieu à un schisme? Je le crois pas. Mais il y a des grandes discussions, puis on veut vraiment élargir le rôle des femmes dans l'Église. On veut aussi bénir des couples homosexuels et aussi la troisième étape au niveau du synode allemand. On veut indemniser les victimes des prêtres pédophiles. Ça, c'est l'autre grand débat qui est
là-bas. Là, aux États-Unis, l'Eucharistie, des élus politiques pro-choix, le Vatican veut s'en mêler.
Oui, à lire Biden. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des évêques américains qui ont décidé on donne pas la commission à Biden, et ils sont allés plus loin, ils disent on donnera pas la communion à tous les politiciens qui sont pro-choix, qui disent que la femme est maître de son corps et si elle veut avorter, elle a droit à l'avortement. Alors là, on veut faire ça, mais comment le faire? Et c'est là, encore une fois, le Vatican est intervenu et a dit à l'Église américaine, vous allez trop vite. Vous, les assemblées des évêques, ça veut dire ce qu'on appelle les conférences épiscopales, vous ne pouvez pas décider pour les évêques locaux à qui tu vas donner la communion ou pas. Si tu veux faire ça, ce n'est que le Vatican qui a le pouvoir de dire, on ne donne pas la communion. Je vais donner un exemple. Mettons les motards criminalisés, la mafia. Ça, j'ai l'impression que le pape va dire, eux, ils n'auront pas la communion, sauf s'ils se repentent.
Mais ils l'ont eu. Ils l'ont eu, là. Moi, Richard puis moi, là, au début des années 2000, on était allés à la parade de la fierté gay pour dénoncer l'Église catholique qui bénissait des mariages de bandits, de tueurs, mais qui refusaient de bénir un mariage entre deux personnes du même sexe qui s'aiment.
Deux personnes qui s'aiment. C'est ça qu'il n'y a aucune logique. C'est pour ça que les en Allemagne, ils disent il faut se mettre à date. Et c'est ce qu'on dit aussi indirectement, le Vatican dit aux Américains, vous ne pouvez pas dire ben voici maintenant les élus qui sont dans le fond des élus démocrates n'auront plus le droit de la commission parce qu'ils sont des pro-droits de la femme à faire ce qu'elle veut de son corps. Mmh. Et ça, le Vatican est intervenu. Il a dit, vous pouvez pas faire ça. Et le Vatican aurait pu dire, ben écoutez, oui, ça a du bon sens ce que vous faites. Non, il dit, ce sont les évêques qui vont décider sur le plancher des vaches. Mais ça, c'est un débat américain constant. Sauf que là, c'est pas pour dire à Biden, qui est un catholique, parce que c'est rare que tu aies des catholiques comme président des États-Unis. Le dernier, c'était Kennedy.
Ah oui.
C'est rare, tu peux dire, ben écoute, vous aurez pas de communion.
T'sais? Ben oui, t'en as un de ton bord, puis tu te le mets à dos.
Tout de suite.
Ben
Biden
oui.
a dit, moi, je suis un président catholique, mais je suis le président de tous les Américains.
C'est ça.
Je suis pas juste le président de l'Église catholique, là.
Il y a une importante rencontre entre chiites et sunnites qui se prépare.
Oui, c'est parce qu'on sait qu'il y a toujours eu des tensions entre les sunnites et les chiites. Pour résumer ça, l'Iran est un pays chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Il y a toujours eu beaucoup de tensions entre ces deux pays-là. Mais il y a un pays entre les deux qui s'appelle l'Irak. L'Irak est à, on va dire, 50-50 entre les chiites et les sunnites. Certains disent que c'est à 55% chiites. Et là, on sait que le pape a rencontré, c'est toujours politique ou religieux, grande question, Al-Sistani, qui, lui, représente les chiites en Irak. Et il a rencontré Al-Tayeb aussi, qui, lui, représente les sunnites en Égypte. Et là, il essaye que tout ce monde-là finisse par se parler. Bien, semble-t-il que ça va aboutir. Al-Tayeb, qui est le plus jeune, qui est en Égypte, va, semble-t-il, aller rencontrer Al-Sistani, qui est le chiite en Irak. Et ils vont discuter de religion, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'avoir des rencontres entre l'Arabie saoudite et l'Irak. On va essayer de rétablir des relations. Est-ce qu'on va être capable d'en rétablir avec Téhéran, avec l'Iran? J'en doute, parce que Al-Sistani, c'est un Irakien. Mais on essaye d'arriver à des dialogues. Ça donne quoi, les dialogues? On verra dans le temps, mais on essaye de faire ça.
Bon, souhaitons-le. Et tu veux nous parler de la librairie Pauline de Trois-Rivières?
Oui, moi, je trouve ça toujours triste, Benoît. Moi, une librairie, je me souviens quand j'avais 6 ans et 5 ans, lorsque je suis allé pour la première fois dans une librairie et après ça dans une vraie librairie. Une librairie parce qu'elle avait des titres dans le sol d'église quand j'étais petit. Puis après ça, une vraie quand j'avais 6 ans ou 7 ans, puis j'étais allé, je vais dire le nom, mais c'est pas grave, chez Renaud Bray dans Côte-des-Neiges. Et je me souviens. Et pour moi, une librairie, c'est important. Eh bien, il y en a une qui va fermer, c'est la librairie Pauline, qui est dirigée par la Congrégation des Filles de Saint-Paul et qui s'occupe d'une librairie religieuse et qui devra fermer ses portes parce que l'argent n'est plus là, on a des difficultés financières, les gens vieillissent, on va la fermer. On va quand même conserver la librairie Pauline qu'il y a dans Rosemont à Montréal, mais on va en fermer une, puis je trouve ça toujours triste.
Ben oui.
Quand on est obligé de fermer une librairie, parce que les librairies, Benoît, c'est la culture. Et on ne peut pas se permettre de perdre ça.
Okay.
Même si elle est religieuse.
Non.
Il y a quand même de la philosophie. Il y a des livres de philo qui sont vendus là. C'est important.
Avant qu'on se quitte, Alain, on conclut avec l'Inde.
Oui, en Inde, ben là, ça vient de sortir depuis le 10 avril. Le 10 avril, c'est pas longtemps. Il y a 117 prêtres catholiques qui sont décédés de la COVID-19. Et ces 117 prêtres-là catholiques avaient en moyenne autour de 40 ans.
Hey.
C'est ce qu'il faut penser. La COVID, c'est réel. Ça frappe très fort en Inde. Bon, des fois, j'ai des nouvelles par mon voisin qui vient de l'Inde et qui dit c'est effrayant. Il essaie de fermer les régions là-bas. Ça va excessivement mal en Inde. On sait que le nombre de victimes est élevé, mais là, on l'a au niveau, c'est chiffré au niveau des prêtres, c'est 117 dans la quarantaine. Là.
Ouais, faut pas l'oublier, hein.
Faut pas l'oublier.
On n'est pas sorti de cette pandémie. Alain Bronkin, merci. Désolé pour le début de la chronique, là, j'étais pas à mon affaire.
C'est pas grave.
On va se reprendre la semaine prochaine.
Inquiète pas, il faut être prêt pour les séries de la Coupe Stanley qui commence jeudi.
Ah oui,
on va faire une prière pour ça.
Ben. Ton autre religion, toi. Oui, oui, tu nous feras ça la semaine prochaine.
Non, ouais, on va faire une belle prière. Ils sont mieux de gagner, eux autres.
Ah, ben là, tu rêves, c'est de la science-fiction. Parfait, merci Alain.
OK,
salut.
Bonne journée, Benoît.